Aujourd'hui, je reçois Marie Bazin, membre de l'association Survie 35, et François Graner, chercheur et membre de Survie. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ensemble, on va parler affaires d'État et secrets défense à travers la conférence que vous organisez vendredi prochain, le 10 décembre, à l'hôtel Pasteur, à Rennes, à partir de 18h30. Pour présenter l'association Survie, l'association dénonce toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique. En quelques mots, à l'échelle nationale et locale, quelles sont vos différentes formes d'action ?
Alors Survie, c'est une association qui a été créée en 1985 et donc on agit notamment en faisant beaucoup de recherches bénévoles principalement et d'analyses autour de la question de la France-Afrique pour faire connaître ce sujet et pour l'analyser d'une façon critique, ce qu'on ne retrouve pas forcément souvent dans les médias. Donc ça, c'est un des principaux modes d'action de Survie. Et ensuite, on diffuse le résultat de ces recherches et nos analyses par beaucoup d'informations, de sensibilisation, notamment en publiant des livres. On a une revue mensuelle qui s'appelle Billets d'Afrique. Et on a un réseau de groupes locaux dans toute la France, qui sont une quinzaine, qui organisent régulièrement des événements comme celui de vendredi soir à Rennes. Voilà, donc ça, c'est un des modes d'action importants. Ensuite, on a aussi des actions un petit peu envers des élus, envers des partis politiques, assez peu, mais un petit peu. Et puis envers la presse, évidemment. Et puis, on a également des actions en justice, notamment sur le sujet de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, dont on va reparler. Et puis aussi, en ce moment, on a une action en justice sur les activités de Total en Ouganda. Voilà, donc sur base des recherches qu'on produit, on essaye à la fois d'interpeller le public et aussi de faire avancer au niveau judiciaire certains sujets.
Et à travers votre conférence, vous souhaitez aussi dénoncer l'accès limité en France à certains documents militaires ou civils au nom de la sécurité nationale. Et les membres de Survie, dont toi, François Graner, vous mettez tout en œuvre pour amener au premier plan les affaires criminelles pour lesquelles la recherche de la vérité est entravée et la responsabilité de l'État étouffée. L'association Survie use donc de tous les moyens auprès des pouvoirs publics, des autorités judiciaires, des parlementaires, pour qu'il n'y ait aucune obstruction de la part de l'État et œuvre ainsi pour réformer le secret des défenses. Mais je me tourne vers vous. Pourquoi jugez-vous cette réforme indispensable ? Comment un accès plus libre aux archives d'État pourrait changer le cours de l'histoire ?
Changer le cours de l'histoire, c'est un objectif très ambitieux, mais en fait, ce n'est pas faux. Hein. Ce qui se passe en France, et par rapport à d'autres pays démocratiques, c'est beaucoup, beaucoup de documents sont confidentiels au nom de ce qui s'appelle le secret défense, mais qui, malgré son nom, couvre essentiellement les secrets des gouvernants, les secrets des décisions administratives ou politiques. Et donc, il y a 5 millions de documents classifiés en France, dont la majorité sont civils, hein, c'est malgré le nom. Et ça concerne beaucoup le nucléaire, mais même aussi d'autres secteurs. Et alors, le problème en France, c'est qu'on classifie énormément, c'est-à-dire qu'on cache énormément de documents à tour de bras, même des choses qui n'ont vraiment aucun intérêt. Et en même temps, on n'a pas de procédure correcte pour déclassifier. C'est extrêmement fastidieux, c'est à la main, c'est un par un. Donc, en gros, on est en train d'accumuler massivement des quantités de documents classifiés, ce qui pose beaucoup de problèmes. Alors évidemment, on pense tout de suite aux historiens, mais il n'y a pas que. Et dans des débats politiques ou, et surtout, dans des affaires judiciaires, ça peut être un gros, gros problème. Et donc, on s'est regroupé avec d'autres, des familles de victimes dans des affaires judiciaires ou d'autres associations très variées qui se heurtent à ce secret défense en justice. Et donc, on a monté un collectif qui s'appelle Collectif Secret Défense, un enjeu démocratique. Et c'est celui-là qu'on présentera effectivement vendredi.
Effectivement, le collectif Secret Défense se réunira autour d'une table ronde. 3 invités, Armel Mabon, François Graner et Dominique Launay, porteront à notre connaissance 3 affaires criminelles et affaires d'État non résolues à ce jour. Le massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Tiaroy en 1944, le rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, c'est ton domaine, et le naufrage du chalutier breton Bugalette-Braise en 2004. Pourquoi avoir choisi ces affaires pour illustrer la nécessité de mettre fin au secret défense ?
Alors c'est vrai que ça nous tenait à cœur de parler de ce sujet-là et de le faire à travers différentes affaires. Comme le disait François, c'est important de montrer qu'il y a une grande variété d'affaires et de situations qui sont concernées. Et puis on voulait traiter de sujets qui concerne localement aussi les gens en Bretagne, et de montrer que ces questions-là, elles ne sont pas très éloignées dans des sphères nationales lointaines. En fait, parfois, ça concerne tout simplement un chalutier breton du Finistère qui était simplement parti en mer pour pêcher et qui s'est trouvé coulé en quelques secondes. Et voilà, donc en fait, ça peut nous arriver à des simples citoyens au quotidien d'être confrontés à ce secret défense, et c'est pour ça qu'on avait envie de traiter ces différentes affaires. Voilà, donc notamment la présence du président de l'association SOS Bugalette Braise va pouvoir nous montrer le lien avec le local. Et puis évidemment, donc sur le sujet du génocide des Tutsis au Rwanda, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Survie, et donc on avait la volonté d'en parler, bien sûr. Et puis sur le sujet du massacre du camp de Tiaroy, Armelle Mabon, c'est une historienne qui vit en Bretagne, et donc qui est assez proche, et qui a fait ce travail-là, notamment parce qu'un certain nombre de ces tirailleurs, alors sénégalais entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas tous sénégalais, il y en a un certain nombre qui sont partis en bateau de Bretagne vers le Sénégal, où ils ont été massacrés parce qu'ils revendiquaient le paiement de leurs soldes. Et donc du coup, on voit qu'il y a des liens en fait aussi avec la Bretagne, et ça nous paraissait intéressant de mêler ces trois histoires-là pour parler du secret défense, à la fois sur des histoires anciennes, 1944, toujours actuelles, même si c'est 94, mais parce que ça a toujours des répercussions aujourd'hui sur le fonctionnement de l'État, et puis 2004, c'est très récent et très local. Voilà.
Et François Graner, donc tu travailles pour mettre en lumière le rôle de la France dans les génocides des Tutsis au Rwanda. D'ailleurs, en juin 2020, tu as obtenu du Conseil d'État un accès aux archives de François Mitterrand sur le Rwanda et la politique de la France. Pourquoi l'accès à ces archives a-t-il été si difficile, et qu'est-ce que cela représente pour toi ?
Alors, pourquoi l'accès est difficile ? En France, les gouvernants et la loi ont tendance à protéger et surprotéger la question du secret des gouvernants. Et donc, il y avait eu de la pression depuis 25 ans, depuis 1994, il y a eu de la pression de Survie, mais de beaucoup d'autres gens. Survie n'est pas du tout seul dans cette affaire. Et qui fait que, pour désamorcer la polémique, François Hollande avait dit en 2015, il faut ouvrir, on n'a rien à cacher, il faut ouvrir les archives de Mitterrand. Et il a fait sauter un premier verrou, ce qu'on appelle un verrou, c'est-à-dire déclassifier justement celle qui était secret défense. Il a dit, j'enlève le secret défense, comme ça vous pourrez les rendre accessibles aux chercheurs, à tous les chercheurs avant la fin de l'année prochaine. Et donc j'ai demandé à avoir accès à ces archives, et malheureusement, il y a un deuxième verrou, c'est-à-dire que les archives sont aussi sous le contrôle des services qui les déposent. Et là, en l'occurrence, Mitterrand étant mort, c'était pas lui qui contrôlait, qui avait le droit de regarder ses archives, mais il avait désigné une mandataire, une personne privée, qui s'appelait Mme Bertinotti, pour décider à sa place, et qui m'a refusé l'accès aux documents que Hollande avait promis. Et donc ça m'a amené à faire des recours, et les décisions de Mme Bertinotti n'étaient pas susceptibles de recours, alors donc j'ai dû monter au Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, Conseil d'État, qui finalement m'a donné raison, et en insistant bien sur le fait que sur ce sujet-là, c'était vraiment important qu'on puisse avoir accès sans contrôle politique à ces archives, que c'est essentiel pour le débat démocratique. Donc ça, c'est un peu un espoir pour les autres affaires qui nous animent, parce que c'est vraiment une décision de fond.
Et donc, pour revenir sur les génocides des Tutsis, on va contextualiser un peu. Cela débute le 7 avril 1994. Le génocide des Tutsis est un génocide planifié, préparé et exécuté par l'État. Les Hutus au pouvoir veulent venger Juvénal Habyarimana, le président du Rwanda, tué la veille dans un attentat visant son avion. C'est le point de départ de violences et d'exécutions qui vont rapidement s'étendre à tout le pays. En plusieurs semaines, près d'1 million de personnes vont y perdre la vie. Et toi, François Graner, quelle zone d'ombre dans la politique française au Rwanda souhaitais-tu explorer ? Avais-tu une idée de ce que tu cherchais à démontrer ?
Alors, je ne cherche pas à démontrer, je cherche à comprendre. Et surtout, l'association Survie et beaucoup d'autres, les faits sont très bien documentés depuis l'époque. Le tableau est bien connu. Le soutien de la France au régime des extrémistes Hutus est bien connu. Avant, pendant et après le génocide, même après, il s'est maintenu. Alors pourquoi l'intention... a priori, il n'y a pas d'intention génocidaire, et ça, le travail dans les archives a permis de démontrer. On ne trouve pas de traces que les dirigeants français, Mitterrand et les dirigeants de l'armée, aient voulu exterminer les Tutsis. Par contre, ce qu'ils ont voulu faire, c'est garder un régime qui leur est fidèle et le maintenir au pouvoir. Et ça, c'est-à-dire que c'est la même politique que la France fait en Afrique, dans plein de pays, hein, ce qu'on appelle la France-Afrique. Et donc ça, en ayant l'impression de faire cette politique-là, qui leur paraissait normale, ils ont volontairement choisi de s'asseoir sur toutes les remontées qu'ils avaient d'informations qui montraient que leurs fidèles alliés préparaient, puis exécutaient, puis avaient exécuté un génocide. Donc ce que montrent les archives, c'est pas tellement les faits qui étaient déjà largement bien connus, même si ça permet de les préciser, c'est de vérifier que jour par jour, les dirigeants français étaient bien informés, de savoir qui prend quelle décision, comment, est-ce que c'est dans le calme ou dans la panique, et on voit vraiment que les décisions sont prises dans le calme, que les ordres sont donnés, que les ordres sont exécutés. Donc on voit toute la machine d'État qui fonctionne de l'intérieur, ça c'est très intéressant. Et donc et on voit que c'est bien donc une politique assumée, choisie, décidée par Mitterrand, qui se maintient et qui fait cette continuité du soutien aux génocidaires, même après le génocide. Alors maintenant, ce qui manque, c'est tout le volet des archives de l'armée. Voilà.
Le rapport Duclerc sur le rôle de Paris dans le génocide des Tutsis en 1994 conclut à une responsabilité accablante de la France et non une complicité, comme tu l'as dit, dans le génocide. Toi, qu'est-ce que tu en penses après avoir consulté des documents et avec tes recherches? Est-ce que tu arrives à la même conclusion ou justement tu veux apporter une autre facette ou tu as d'autres choses à exprimer sur le sujet?
Alors, le rapport Duclerc, donc du nom de Vincent Duclerc, président de la commission qui a été nommée par Macron pour examiner des archives, qui a pu examiner donc librement les archives, ou la plupart beaucoup d'archives, y compris celles qui ont été refusées au juge. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît très particulier, hein, que le président puisse accorder des droits que n'ont pas les juges. Alors, je suis d'accord avec la conclusion du rapport Duclerc qu'il n'y a pas d'intention génocidaire dans le soutien des dirigeants français aux extrémistes Hutus. Par contre, cette conclusion très abrupte du rapport qui dit « il n'y a pas d'intention, donc il n'y a pas de complicité », ça c'est faux pour nous, parce que c'est au juge de trancher ça. Il faut que les juges aient accès aux documents justement pour pouvoir déterminer s'il y a eu complicité ou pas. Et la complicité en France, c'est pas l'intention, ça fait partie des définitions de la complicité, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et je donne un exemple, hein. Maurice Papon a été condamné pour complicité avec les nazis, alors qu'il n'avait pas du tout partagé il n'avait pas été établi qu'il avait partagé l'idéologie nazie et l'intention d'exterminer les juifs. Mais il a eu un soutien actif à la déportation. En droit français, c'est très clair que l'intention, ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse parler de complicité? C'est le fait qu'il y ait eu un soutien actif, que ce soutien ait eu un effet sur le crime. Et là, ça a été vraiment le cas, puisque c'est ça qui a permis aux génocidaires de se maintenir au pouvoir et d'exécuter le génocide. Et que ça soit en connaissance de cause, et ça, les archives le montrent très très bien, et ça, Duclerc le sait très très bien aussi, l'information a été parfaite. L'information du gouvernement français a été parfaite sur le génocide en préparation puis en cours. Donc, pour nous, les éléments qui permettent d'amener des plaintes en complicité devant le juge sont établis. Et donc, il y a actuellement 5 plaintes, dont 3 soutenues par survie, sur des questions de complicité et de génocide, avec des dossiers très solides. Et donc, pour nous, il faut que la justice aille jusqu'au bout et pas qu'on fasse juste confiance à une commission choisie par Macron pour trancher abruptement un sujet pas aussi important.
Après, en plus, pour compléter, mais ce qui a été assez frappant dans la sortie du rapport Duclerc, c'est qu'effectivement, les propos semblent très forts, responsabilité accablante, etc. Mais pour autant, ça n'a pas suscité le séisme que ça aurait pu susciter dans la classe politique, par exemple, et surtout que les leçons soient tirées de ce qui s'est passé et de tout ce qui peut être... Le rapport démontre quand même un certain nombre de choses, même si sur la conclusion, on n'a pas exactement la même avec survie, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont établies de ce que le rapport qualifie de dérive ou de dysfonctionnement et de ce que nous, on considère comme étant plutôt un fonctionnement assez caractéristique de la Ve République pour ce qui est de la politique étrangère en Afrique. Et donc, ce qu'il aurait fallu, c'est que ce rapport puisse ensuite déboucher sur... c'était pas le rôle du rapport de le faire, mais ça aurait pu être... des politiques auraient pu s'en saisir pour dire bon, bah, il faut mettre fin à un certain nombre de problèmes qui ont pu mener à ce que l'État soutienne un régime génocidaire. Et pourtant, ça ne s'est pas passé, en fait. Et donc, c'est ça qui est très problématique et qui fait que le combat qu'on peut avoir sur ce sujet-là reste toujours d'actualité, parce que nous, notre objectif, c'est aussi que ça ne puisse pas se reproduire, en fait, dans le futur, et que la politique que mène la France en Afrique change profondément.
Oui, les deux mécanismes que nous, on analyse, qui ont permis cette politique française, c'est la politique française de vouloir avoir une zone d'influence à tout prix et le fait que le président puisse tout décider dans la Ve République française. C'est ces deux points-là qui sont très bien mis en valeur pour le Rwanda et qui peuvent nous servir pour faire de la prévention pour le futur, et malheureusement c'est pas le cas. Par contre, la grosse avancée quand même du rapport Duclert, c'est d'avoir reconnu la responsabilité de la France, et que donc par exemple nous qui a survie et tous les autres qui depuis 25 ans le disent, on est enfin reconnu pour des gens qui n'ont pas des qui sont effectivement sérieux et qui font des accusations fondées. Voilà.
Et pour finir, pourquoi pensez-vous que l'État français a du mal à reconnaître ses responsabilités ? Est-ce que c'est une particularité française ou à l'étranger, avons-nous des exemples de pays qui, eux, ont reconnu leurs responsabilités dans d'autres affaires ?
Alors, à Survie, on se concentre quand même principalement sur les questions, la question de la politique de la France, donc on n'a pas forcément étudié dans le détail ce qui peut se passer dans d'autres pays, mais on remarque quand même qu'il y a une difficulté en France à parler des questions post-coloniales et coloniales tout simplement, et à reconnaître une responsabilité dans les crimes commis pendant la colonisation ou après. On est directement taxé de, voilà, d'être dans une logique de repentance, etc., quand on parle de ces questions-là. Or, il s'agit simplement, des fois, juste de faire avancer la vérité, l'histoire, la justice, quand les victimes sont encore vivantes. Et voilà, donc c'est assez évident que oui, il y a des difficultés sur ces questions-là en France, et que ça génère aussi tout un tas de problématiques dans la société française aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent en France qui sont issues de l'immigration venant de ces colonies ou de ces néo-colonies, et donc c'est après dur de faire pays et de faire société quand on essaie d'ignorer ou de nier une partie de l'histoire de France pour des gens qui pourtant habitent ce pays. Donc oui, il y a une problématique. Et notamment les questions qu'on a pu entendre autour de renommer des noms de rue ou déboulonner des statues de personnes qui avaient pu s'illustrer par de la répression pendant la colonisation, par exemple. C'est des débats qui sont très compliqués en France, alors qu'il y a d'autres pays où ça avance un petit peu plus vite sur ces questions-là. Je ne sais pas, François, si tu veux...
Oui, je peux donner deux exemples. Sur le cas du génocide des Tutsis, il y a deux pays qui ont fait effectivement des excuses beaucoup plus sérieuses que la France, qui est la Belgique et les États-Unis, alors même que leur responsabilité est beaucoup, beaucoup moins grande que ce que la France a fait. Et à l'inverse, sur d'autres sujets de génocide, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité à la fois dans la Shoah et dans le génocide des Hereros. Et là, l'Allemagne est auteur, hein, et pas de ces deux génocides, et non pas simplement complice. Donc, elle a été reconnaître. Donc la France, qui n'est qu'une complicité à reconnaître, pourrait le faire. Et ça, Macron s'est refusé à le faire. Il a reconnu une responsabilité sans complicité. Donc sans complicité, ça veut dire dans son esprit, sans sanction pénale, et sans tirer les leçons, sans changement de politique dans le futur. Et c'est, pour nous, ça c'est un problème, parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur la vérité, sur la justice et sur les changements politiques.
Merci à vous d'être venu nous présenter votre conférence. Et si cela vous a intéressé et que vous souhaitez aller plus loin dans la réflexion, auditeurs et auditrices, je rappelle que cette conférence se tiendra vendredi prochain, le 10 décembre, à l'hôtel Pasteur à Rennes, à partir de 18h30. Et dernière question, est-ce qu'il faut réserver ?
Non, c'est entrée libre. Il n'y a pas besoin de réserver. Voilà, c'est une entrée libre, premier arrivé, premier
assis. Et gratuit,
oui.
Merci beaucoup.
Merci.